Et à 6h sur France Culture, c'est l'heure d'un point sur l'actualité avec Clara Lecoq-Réal. Les États-Unis disent avoir éliminé le chef d'Al-Qaïda en péninsule arabique. Qassim Al-Rahmi a été tué lors d'une opération antiterroriste américaine au Yémen sur instruction de Donald Trump. Il se félicite d'ailleurs de cette mort dans un communiqué. L'exécutif américain estime qu'Al-Rahmi avait notamment travaillé en Afghanistan pour Osama Ben Laden. Pete Buttigieg a battu de peu Bernie Sanders lors des caucus de l'Iowa aux États-Unis. Les résultats portant sur la totalité des lieux de vote ont enfin été communiqués hier soir par les instances locales du Parti démocrate. Ces caucus avaient tourné au chaos à cause d'un bug informatique ayant bloqué la diffusion des résultats pendant plus de 24 heures aux États-Unis. Il était l'un des tout premiers à avoir alerté sur le danger du coronavirus. Li Wenliang est mort tôt ce matin, emporté par l'épidémie en Chine. Ce médecin de Wuhan, foyer du virus, a fait partie des 69 nouveaux décès annoncés par les autorités chinoises. Au total d'ailleurs, en Chine continentale, 636 personnes sont mortes. Cette nuit, le président chinois Xi Jinping a indiqué à son homologue américain Donald Trump que son pays était entièrement confiant et capable d'éradiquer l'épidémie. Par ailleurs, un troisième cas a été détecté hier en Italie. Le président des sports de glace français ouvre finalement la porte à une possible démission. Si, dit-il, si c'est le seul moyen de débloquer la situation. La ministre des Sports a en personne, en début de semaine, exigé son départ. Le monde du patinage français est secoué depuis plus d'une semaine maintenant par des accusations de violences sexuelles. Et puis notez que là, c'est un départ assumé, choisi, argumenté. Frédéric Tufnel quitte le groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. La députée de Charente-Maritime quitte également le mouvement LREM, car, dit-elle, elle n'approuve pas la façon dont le gouvernement a imposé la réforme des retraites. Nous y reviendrons dans le journal de 6h30.
Le dimanche sur France Culture, la nature, le vivant, les océans, Aurélie Luneau.
Poumon bleu de la planète, l'océan est le partenaire nourricier essentiel à l'humanité, mais il est devenu un garde-manger sous pression. Pourquoi la protection des écosystèmes marins est-elle une question vitale? Comment agir? Réponse dimanche avec le chef étoilé Christopher Coutenceau et le directeur scientifique de l'association Bloom, Frédéric Lemanac.
De cause à effet, le magazine de l'environnement, ce dimanche sur France Culture à 16h et sur franceculture.fr.
Comment se propagent les complots imaginaires? Mécanique du complotisme, série en podcast original. Elle se poursuit avec le négationnisme.
Ce que l'on appelle chambre à gaz, c'est-à-dire un endroit, l'abattoir humain où on aurait fait entrer des gens pour les tuer, cela n'a jamais existé.
Dès 1948, une théorie du complot circule, niant l'existence de la Shoah, l'extermination de la communauté juive lors de la Seconde Guerre mondiale, prétendant que les Juifs l'auraient inventée afin de créer l'État d'Israël. Le négationnisme, mécanique du complotisme, sur franceculture.fr et toutes les plateformes dédiées.
Vous écoutez France Culture, il est 6h03, nous retrouvons Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le réveil culturel, à la radio tôt le matin ou quand vous voulez, en passant par le podcast. Tous les vendredis, c'est l'actualité de la bande dessinée et aujourd'hui, Blutch et son frère Robert sont mes invités à l'occasion de la sortie de leur reprise des aventures de Tiff et Tondu. Mais où est Kiki? C'est le titre de la bande dessinée éditée par Dupuis. Et puis en fin d'émission, on parlera aussi de l'exposition Lévis Trondheim fait des histoires. C'est à la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême jusqu'au 1er mai pour nous en parler. Thierry Grunstein, historien et théoricien de la bande dessinée.
Le réveil culturel. Vendredi, bande dessinée.
Qui se souvient de Tiff et Tondu et pourquoi un grand dessinateur contemporain comme Blutch a-t-il décidé de ressusciter ce duo d'enquêteurs né à la fin des années 30 dans le magazine Spirou et disparu il y a quelques décennies, presque dans l'indifférence générale? Bonjour Blutch, bonjour Robert.
Bonjour.
Mais quelle drôle d'idée de reprendre Tiff et Tondu.
C'est une idée qui remonte à loin, Toufik, parce que moi, je m'intéresse, et Tiff et Tondu m'intéresse au plus haut point depuis, on va dire, que j'ai découvert les premiers albums il y a une bonne quarantaine d'années. Je demeure un lecteur de Tiff et Tondu.
Toutes périodes confondues ?
Puisque... Je dirais toutes périodes confondues, oui. les, mais surtout celles, évidemment, qui ont été animées par le grand, grand dessinateur Will, hein, donc on va dire de la fin des années 40 jusqu'au début des années 90, avec plusieurs scénaristes qui se sont succédés. Mais moi, le dessin de Will a toujours fait ma joie. C'est un... Il, pour le situer, il fait partie des grands anciens de l'école de Marcinelle. Donc il y a eu ces mousquetaires, Franquin, Robat, Peillot, bon, il y a eu Jigé. Okay, voilà, bon. Lui, il est un peu en seconde ligne, il est un peu négligé, mais pour moi, je le place en premier plan. J'ai toujours été sensible à son trait, à sa manière, on va dire. Donc, Tif et Tondu sont toujours à portée de main. Et je les ai relus au fil des années, régulièrement, pour le plaisir.
Mais ce n'est pas une reprise classique dans le sens où ce ne sont pas des héros populaires.
Non.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Mais moi, c'est ce qui me plaisait aussi dans cette entreprise. C'est parce que Tif et Tondu sont oubliés, négligés.
Mais ils étaient disponibles. D'or ou de gloire, Tif et Tondu, n'ont jamais atteint le statut des super-héros de la bande dessinée, ces deux enquêteurs.
Je pense que c'était une série à succès quand même, dans les années 60-70. D'abord parce que l'auteur, Will, s'est attaché à... Il a aligné les albums, je pense que ça devait marcher, parce que sinon, il on l'aurait pas permis d'aligner autant de volumes. Et non, je pense que c'était une bonne série de fond de la Maison Dupuis, du journal Spirou, de ce qu'on appelle la grande époque, les années 60, 70. Il a été... Je veux dire, il portait cette... Il a supporté Tif et Tondu. Lorsqu'il a fini à la fin des années 80, début 90, il n'en pouvait plus de Tif et Tondu. Ça a été repris après, brièvement, par d'autres auteurs pendant 5-6 ans. Et puis la série est tombée en désuétude, dans l'oubli. Et le dernier album paru date de 1997. Donc ça fait... quasiment 25 ans qu'il n'y a pas eu de livre qui reprenne, qui représente ces deux personnages, ces deux figures antiques. Vous avez dit qu'ils avaient été créés en 38, ce qui est vraiment, c'est la préhistoire de la bande dessinée. Enfin, c'est vraiment la première génération de héros franco-belges. Et d'ailleurs, ils portent sur leur visage ces stigmates de ces temps primaires, parce qu'ils sont vraiment, ils n'ont aucune psychologie à la base. Hein. C'est vraiment deux figures vraiment très très schématiques, presque des Playmobil, hein. Ils sont interchangeables.
Et pour vous, Blutch, c'était une manière de continuer cette séquence d'hommage, de relecture au grand maître de la bande dessinée après l'album Variation. Vous avez décidé de rendre hommage à quelques auteurs qui ont été importants pour vous. Là, vous vous mettez à faire une véritable reprise et du coup, c'est votre première bande dessinée dans le style aventure.
Oui. Notre cher et estimé directeur artistique, Philippe Guilmetti, m'avait dit, à un moment donné, pendant qu'on travaillait, il m'a dit, tu vois, c'est ta première BD. Et peut-être, oui, c'est ma première bande dessinée véritable. J'allais dire enfantine, bêtement, j'allais dire au premier degré.
Et suite à Variation, suite à cette série d'hommages, de relectures,
tout ça est né à peu près en même temps, parce que moi je travaille déjà sur cette histoire, mais où est Kiki, lorsque j'ai entamé Variation, j'ai mis de côté mais où est Kiki pendant un an pour travailler sur ce livre Variation. On va dire que ce volume de Tif et Tondu, c'est peut-être ma dernière variation. Ma variation à l'échelle 1, c'est-à-dire sur un album entier, avec une histoire qui se déroule de A à Z. Alors que Variation, c'était juste des fragments de récits classiques, plus ou moins fameux. Enfin, tous fameux, mais en tout cas plus ou moins célèbres. Mais Tif et Tondu, oubliés, comme ils sont oubliés, moi je les ai trouvés disponibles. Est bien plus inspirant pour moi que si on m'avait proposé de travailler sur un Spirou et Fantasio, qui sont visités, revisités, rebattus, et usés à mon sens, jusqu'à la corde. Alors que là, il y avait un vide, quelque chose à remplir. Et j'ai retrouvé un carnet assez ancien. Je tiens un crachoir, je suis désolé. J'ai retrouvé un carnet vraiment ancien, hein, du début des années 90, où déjà, j'ai vu que je faisais des petits crayonnés, et j'esquissais des petits feuilletons du vieilli. Et surtout, je dessinais cette fameuse Kiki, là, qui me plaisait beaucoup. J'avais un peu le béguin pour elle, hein, quand même.
Et c'est vrai qu'elle est très jolie, on va en parler. Mais alors, le fait de décider de travailler avec votre frère Robert, c'est pour retrouver un peu votre enfance, cette enfance où vous lisiez peut-être, tous les deux, Tiff et Tondu?
Bah nous, on a été lecteurs acharnés, hein, ouais, de Tiff et Tondu.
Bien sûr.
Robert qui parle.
Ah bah oui, je laisse parler Blatch, il parle tellement bien.
C'est le grand frère. Hein.
C'est le grand frère, on le laisse causer et puis... C'est comme pour les BD, je passe après, et quand on était petit, c'était comme ça, hein. Dès que la BD, elle tombait par terre, moi, je passais derrière, et je lisais ce que lui lisait, enfin, ce que lui avait lu. Et Tiff et Tondu, bien sûr, je sais pas, ils ont au même titre que tous les autres, Castérix, Lucky Luke, Tintin, ils ont évidemment... Moi, j'ai lu Sortie des Abîmes, je sais pas, 1000 fois, je le lis encore, c'est le seul que je lis encore. Je l'ai encore lu la semaine dernière.
Pour quelle raison?
Je trouve l'histoire, c'est une histoire que j'aurais aimé écrire, par exemple. C'est, je trouve l'histoire de cette bestiole qui grandit dans les égouts de Londres. Je trouve cette histoire passionnante, toujours d'ailleurs.
Mais alors, justement, comment présenter Tiff et Tondu aujourd'hui, en 2020? Qui est Tiff? Qui est Tondu? Qui sont Tiff et Tondu?
Là, je laisse parler le scénariste.
Tiff, c'est le glabre. Et Tondu...
c'est le chauve.
C'est le barbu.
Ah bah non, c'est le contraire.
Mais tout le monde se trompe.
Tout le monde
moi
se trompe.
Moi-même, hein, je me trompe.
Ouais. Mais moi aussi, régulièrement. Et ils sont romanciers.
Grâce à vous ou depuis que
non,
vous avez
grâce
repris.
À nous.
Ouais, parce qu'ils ont vécu des années et des décennies en étant juste des aventuriers enquêteurs. Personne ne connaissait, je pense que personne ne connaissait vraiment ce qu'ils faisaient. Et vous avez eu l'idée géniale, et je dirais pourquoi, de leur inventer un boulot, c'est-à-dire auteur de polar.
Alors je mets un petit bémol. Oui, il en avait parlé, je crois, dans les années 60. Il,
ah
en
oui
avait, il avait dit qu'ils étaient écrivains, mais
non,
sans
c'est,
tellement
c'est
plus.
C'est esquissé, genre, à un moment, pardon. Pardon, Robert, à un moment, il faut qu'ils écrivent leur mémoire, je crois, dans un album ancien. Alors, il faut qu'on se mette à écrire nos mémoires. Et je crois que c'est ça qui m'a donné l'idée de les rendre vraiment complètement écrivains.
Oui, c'est une idée de Blutch. Qu'ils soient romanciers, c'est une idée de Blutch.
Et comme vous-même, vous êtes auteur de polar, on peut le dire, Robert?
On peut le dire, oui.
Vous êtes auteur de polar ou pas? Parce que...
Pas édité, mais j'écris depuis longtemps.
Des polars?
Des polars, entre autres. Non, tout, même des haïkus, si vous voulez. Mais tout ce qui me...
Vous dites que vous n'êtes pas publié, mais du coup, si, grâce à Tiff et Tondu, vous
absolument
êtes publié, parce que vous avez eu cette idée géniale d'écrire d'abord le roman de Tiff et Tondu, et puis ensuite la bande dessinée racontera la suite de comment ce livre de Tiff et Tondu sorti va être accueilli, et comment il va être à l'origine d'une nouvelle aventure avec des rebondissements. Et là, on rentre vraiment dans la charte de Tiff et Tondu, c'est-à-dire de l'enquête, des rebondissements, un zeste de fantastique qui vient brouiller tout ça.
Alors ça encore, toutes les idées géniales, elles sont jamais de moi. C'est une idée de notre éditeur d'écrire le livre. Je l'ai écrit après avoir écrit le scénario du Tiff et Tondu.
Ouais, parce qu'il faut préciser que la bande dessinée débute sur une séance de dédicaces où nos héros signent leur dernier ouvrage. Mmh. Et c'était l'idée de José-Louis Bouquet, notre éditeur. Il a dit pourquoi on n'écrirait pas vraiment ce roman, le roman dont il est question dans la bande dessinée. Donc il a été écrit. Après coup, mon frère il était ravi de cette idée de rédiger réellement ce roman. Donc on se retrouve...
Et de le faire finir là où commence, exactement là où commence la BD. Voilà, c'est ma seule bonne idée. Non, j'exagère, mais c'est une bonne idée.
Avec Blutch et son frère Robert. L'autre idée de cette reprise de Tiff et Tondu, mais où est Kiki chez Dupuis, je le rappelle, c'est l'époque. Vous avez décidé que cette histoire devait avoir comme époque les années 80. Pourquoi, Robert?
Pour m'affranchir des portables, c'était plus facile. Pour faire du suspense, c'est plus facile de faire du suspense quand il n'y a pas de portable.
Et ça, c'est une idée de vous? Vous avez discuté avec votre grand frère en disant, est-ce que vous aimez dessiner des cabines téléphoniques? Est-ce que vous vous souvenez des cabines téléphoniques? Non?
Oh, mais il a plein de docs, ça, les cabines téléphoniques. C'était pas le souci. C'était plus les voitures, les hélicos, les camions Ben, tout ça. Je pense qu'il en a bien, il a bien souffert. Non, c'est une idée de moi tout seul. Mais une fois qu'on m'a dit, écrit ce scénario, je me suis débrouillé. J'ai pas demandé l'avis de Blutch. Enfin, je lui ai donné un produit fini.
Et ça devenait un défi pour vous, Blutch?
Ah ouais, bien sûr. Oui, une part de jeu, hein, une part de jeu enfantin presque.
Ouais, parce moi, qu'on les a connus les années 80.
C'est pas, c'est mes 20 ans. J'avais pas le, j'avais évidemment pas mal d'idées derrière la tête lorsque j'ai proposé à mon frère de travailler sur cette histoire, parce que d'abord je m'en sentais incapable d'écrire un récit, on va dire, dit classique, structuré, avec une intrigue. Et comme je sais que c'est l'encyclopédie vivante du polar et du roman noir, et qu'il écrit lui-même des romans, et qu'il a le snobisme de pas publier, de pas présenter, je suis un des seuls lecteurs de mon frère depuis des années, donc je trouvais vraiment que c'était une richesse qui se perdait. Alors je lui ai dit, mais écris-moi une BD. En plus, je connais son penchant pour la saillie, le trait, la réplique, le dialogue. Donc j'étais sûr que ça ferait merveille dans une BD, cet esprit qu'il a.
Comment vous avez travaillé ensemble?
Alors, comment on a travaillé ensemble? Je vais vous le dire, c'est très facile. On ne s'est rien dit, on ne s'est pas parlé. On n'a pas besoin tellement de se parler, parce qu'on se connaît très bien. Parce qu'on est à peu près d'accord sur tout, ça s'est présenté sous la forme d'une grande nouvelle, d'une quarantaine de pages. C'est-à-dire que j'ai reçu cette nouvelle, déjà solidement dialoguée, et donc j'ai travaillé à partir de cette nouvelle, je l'ai découpée. J'ai transformé cette nouvelle en bande dessinée.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Avec Blutch et son frère Robert pour parler de cette reprise des aventures de Tiff et Tondu, mais oui, Kiki qui apparaît. Donc on se dit, voilà. Blutch et Robert ont profité de cette reprise pour laisser un peu plus de place aux femmes, aux héroïnes. En fait, non, c'est un faux semblant. Hein. Elle est au centre de la couverture, elle est au centre de l'intrigue, mais elle n'est pas aussi active que les bonhommes, que les Tifs et Tondus. Robert?
Non, elle se fait enlever. Donc c'est difficile, quand on est enfermé quelque part, bien sûr, d'être actif, mais...
Ouais, c'est un personnage que moi, elle joue pour beaucoup dans l'attrait que j'ai pour Tiff et Tondu, à vrai dire. Déjà enfant, jeune lecteur, j'étais vraiment attiré par cette femme, Kiki, la comtesse Amélie Dieu, parce que c'est tout le contraire d'une potiche. Je trouvais qu'elle avait du chien, et il y avait vraiment quelque chose qui se dégageait sous le trait de Will quand il représentait cette femme, enfin, en tout cas à mes yeux. Et c'est pour une grande part, certainement, ce qui m'a attiré aussi dans une relecture des aventures de Tiff et Tondu, c'est la présence de Kiki, qui a été créée par Maurice Tilleux, tournant des années 69-70. Donc, pour les gens qui ne la connaissent pas, moi je la trouve végétale. Je la trouve végétale, et on dirait un petit peu un genre de Mireille d'Arc. Hein, une espèce de blondeur comme ça. Donc elle fait très 20e siècle, fin du 20e siècle. Et oui, pour moi, c'est une grande part de l'attrait que j'ai pour Tiff et Tondu. Maintenant, je me faisais une joie de la représenter, de la dessiner. Et ça a été une souffrance, vraiment. J'ai pas réussi à la choper. Autant j'ai réussi à habiter même Tiff et Tondu, à les représenter, à les jouer. Autant elle m'a échappé tout le long. Alors que pour moi aussi, ça a été un peu mais oui, Kiki. Hein. Ouais.
Et vous avez l'explication
Elle est dure. Elle est... Nous, dans notre jargon, souvent, dessinateur, on dit « Est-ce que tu tiens ton personnage ?» Et je ne la tenais pas, en fait. Alors, elle penche un peu vers, vers Mireille Darc, des fois. Puis après, elle va vers Monica Vitti. Et puis après, même des fois, j'ai un peu la Deneuve de Belle de Jour. Et puis, ça re... enfin, voilà, il n'y a pas de... elle est flottante, elle est mouvante.
Vous donnez beaucoup de références, alors que dans l'aventure, ça fait d'ailleurs le charme de cette aventure de Tiff et Tondu, c'est que vous n'avez pas cherché à bourrer de références des années 80. Il n'y a pas toutes les musiques, tous les écrivains, tous les hommes politiques. Vous êtes resté vraiment dans un esprit intemporel.
Il y a quelques références.
Ouais,
de Paul Lucelizer, oui. Ce genre de choses.
Une éditrice qui ressemble effectivement à ce qu'on a connu dans les années 80.
Ouais. On parle du Minitel.
Du Minitel, c'est vrai. Il s'agit pas
de revisiter les années 80.
Non. Il s'agit pas de bourrer de références, juste d'évoquer vaguement. Je préfère ça, bien sûr. Un peu de finesse.
À qui s'adresse cette aventure de Tiff et Tondu? Je dis ça parce que avant la sortie de cet album, enfin, en couleur, c'est-à-dire dans sa version classique, il y a eu ses cahiers en noir et blanc, c'est-à-dire tous vos fans, vos admirateurs, Blotch, sont rués vers cette version noir et blanc, donc ce sont les amateurs de votre trait, de votre dessin. Et est-ce que vous voulez, avec cette version en couleur, vous adresser à un autre public?
Oui, certainement, oui, bien sûr. Oui. Ah bah oui, je serais assez content. En fait, je travaille pas, j'ai pas de cible. J'ai pas de plan, de stratégie. Je travaille à l'envie, et à vrai dire, je travaille pour moi. Mais si je suis lu par les jeunes, les vieux, les petits, les grands, les femmes, les hommes, ça m'irait parfaitement. Mais c'est en second lieu, en fait. Tout d'abord, je pense qu'on a travaillé pour nous. C'est-à-dire, comme on disait un jeu, comme quand on était gamin, on a essayé de recréer une intimité ou un jeu ou enfantin, voilà, un petit peu quand même.
Vous avez retrouvé ça, Robert ?
Oui, bien sûr. Oui. Mais je pensais à lui, moi. Enfin, moi, je travaille pour épater ma femme, mais bon, c'est un autre sujet. Ouais. Non, mais je pensais à lui. En écrivant le scénar, je pensais à lui.
Ouais, pensait à nous, c'est-à-dire
au grand frère qu'il était quand vous étiez enfant, puis à Blotch d'aujourd'hui.
Les deux. Non, je pensais à notre enfance, à toutes nos lectures.
C'est ce que je voulais dire. Aux lecteurs qu'on était aussi. Quand je dis pour nous, c'est aussi les lecteurs qu'on était. C'est-à-dire qu'on a travaillé pour les lecteurs qu'on était aussi, je pense.
Et pourquoi c'est Paris et pas Strasbourg, allez, pour terminer?
Je suis même pas posé la question. J'ai vu Paris. Je sais pas.
Les aventures du Tiff et Tondu se déroulent à Paris.
Souvent, ils voyagent pas mal.
Je pense que la rédaction bruxelloise de Spirou, je pense insister pour que les aventures des héros se passent en France, parce que le lectorat était plutôt français. C'est pour ça que l'agent Lontarin dans Gaston Lagaffe, il a un uniforme de poulet français, donc et non pas de flic belge. Donc je pense que ils insistaient, je pense à l'époque, à ce que les héros vivent leurs aventures en France. Donc c'est pour ça que pour moi, Tiff et Tondu, c'est pour moi une série parisienne, vraiment.
Mais où est Kiki, l'aventure de Tiff et Tondu par Blotch et Robert, est édité par Dupuis. Le réveil culturel sur France Culture, tous les vendredis, l'actualité de la bande dessinée. La semaine dernière, nous étions au Festival d'Angoulême et ça a été une occasion pour découvrir la première exposition consacrée à Lewis Trondheim. Lewis Trondheim fait des histoires, c'est à la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême, jusqu'au 1er mai. Pour nous en parler ce matin, notre invité, l'historien et théoricien de la bande dessinée, Thierry Grunstein. Thierry Grunstein, Lewis Trondheim, ça y est, il rentre dans le monde des musées de la bande dessinée.
Ben oui, enfin, une grande rétrospective consacrée à cette œuvre pléthorique. Songez que son nom apparaît sur 180 livres et c'est pas terminé. Et Lewis Trondheim, je pense que c'est vraiment l'auteur qui est au carrefour de toutes les évolutions de la bande dessinée moderne. Il n'y a pas de genre auquel il ne se soit essayé. Il s'est lancé toutes sortes de défis. Et puis, à Angoulême, il faut bien dire que on a une dette envers lui, puisque le fauve, la mascotte du festival, c'est quand même lui qui l'a créé il y a 12 ans. Et donc, depuis tout le monde l'a adopté.
Depuis le Grand Prix d'Angoulême.
Il avait été Grand Prix d'Angoulême, oui, en 2006. Donc, président en 2007. Mais cette année-là, il n'avait pas eu la grande exposition qui est traditionnellement consacrée au président.
Pourquoi ?
Parce qu'il ne l'avait pas souhaité, il n'était pas très content de son dessin à cette époque-là, et puis d'une façon générale, il se considère plus, ce qui est vrai, comme un raconteur d'histoire, un brillant dialoguiste, comme tout le monde le sait, que comme un très grand dessinateur. Donc il pense que son travail n'est pas fait pour tenir le mur, mais plutôt pour être lu.
Comment il a évolué, Trondheim ?
Eh bien, ce qui est très intéressant dans son cas, c'est que c'est un dessinateur autodidacte qui, au départ, parce qu'il se sent incapable de dessiner, photocopie toujours la même case et se contente de changer le texte dans les bulles, puis se lance dans cette aventure incroyable de Lapineau et les carottes de Patagonie, un album de 500 pages complètement improvisé qu'il n'avait pas l'intention de publier, qui était pour lui un simple exercice destiné à lui apprendre à dessiner et à maîtriser les codes de la bande dessinée. Bon, finalement, ça a quand même été publié avec succès. Incidemment, ça lui a permis de créer son personnage le plus célèbre, Lapineau. Mais depuis, ce qui est très intéressant, c'est qu'il ne cesse d'essayer de s'améliorer, de progresser. Et par exemple, il a entamé la série des Petits Riens pour apprendre la technique de l'aquarelle. C'est ça sa motivation première. De la même façon que depuis quelques années, il s'astreint tous les 15 de chaque mois à prendre quelques heures pour faire un dessin d'observation. Un dessin sur le motif extrêmement précis, extrêmement descriptif, donc complètement à l'opposé du style plutôt simple et linéaire qu'on lui connaît.
Et puis enfin, on peut terminer par Lewis Trondheim comme rédacteur en chef, comme éditeur de bande dessinée.
Ben oui, il est à la fois toujours membre du comité de rédaction, enfin du comité éditorial de l'association, dont il est un des fondateurs, et en même temps, il est directeur de collection chez Delcourt, donc il a un pied dans l'édition indépendante, un pied dans la grande édition.
Et qu'est-ce qu'il impulse, Lewis Trondheim ? C'est quoi son esprit ?
Ce qu'il aime, c'est d'être surpris. Ce qu'il aime, c'est le jeu. C'est tout ce qui présente une dimension ludique. Il aime aussi mettre le pied à l'étrier de jeunes auteurs. Il se sent une sorte de responsabilité vis-à-vis de la génération suivante. Il aime bien ce rôle de passeur. Et puis, c'est quelqu'un qui privilégie souvent le dessin-écriture par rapport aux grands dessins académiques très élaborés, etc. Donc, voilà. Il a fait connaître pas mal de gens comme Boulet, par exemple, qui vient de la sphère des blogs, etc., qui avait ça en commun avec lui.
Et puis enfin, pour terminer, les influences de Lewis Trondheim. Est-ce que c'est quelqu'un qui est venu avec, dans l'esprit, l'envie de rompre avec tous les grands noms de la bande dessinée d'avant, ou est-ce qu'on peut y déceler, dans sa manière de dessiner, ou dans son approche de la bande dessinée, des influences Thierry Goldenstein?
Oui, on peut, et d'ailleurs c'est amusant parce que c'est seulement ces deux dernières années qu'il a rendu hommage aux auteurs de chez Disney en scénarisant pour Glénat un album de Mickey, un album de Donald. Et en fait, je crois que les plus grandes influences qu'il ait subies au début de sa carrière, c'est celle de Karl Barks, le grand dessinateur de Donald, et un petit peu derrière Floyd Gottfredson, le grand dessinateur de Mickey. Donc il a lu et relu leurs histoires étant adolescent. Il les connaît par cœur et c'est vraiment, je pense, sa conception de bande dessinée, elle vient de là.
Merci Thierry Goldenstein. Donc je rappelle, l'exposition Lewis Trondheim fait des histoires, c'est à la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême jusqu'en mai 2020. Et la nouvelle aventure de Tiff étendu, la reprise de Tiff étendu par Blutch et Robert, intitulée « Mais où est Kiki ?», c'est édité par Dupuis. Passez un bon week-end, on se retrouve lundi à la même heure.
France Culture, l'esprit d'ouverture. France Culture présente Adam, un film de Mariam Touzani. Dans la médina de Casablanca, Abla, mère d'une fillette de 8 ans, tient seule un magasin de pâtisserie. Quand Samia frappe à sa porte, Abla est loin d'imaginer que sa vie changera à jamais. Samia est enceinte, mais elle ne peut garder son enfant. Main dans la main, les deux femmes vont traverser cette épreuve. Adam, présenté en compétition Un certain regard lors du dernier Festival de Cannes, actuellement au cinéma. Un film France Culture.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Angela Merkel rejette toute alliance avec l'extrême droite en Allemagne. Et ce, après l'élection d'un candidat à Thuringe, grâce au soutien de cette extrême droite. Il a démissionné 24 heures plus tard, c'est-à-dire hier, mais la crise politique s'annonce profonde, vous l'entendrez. Dans ce journal aussi, zoom sur le discours attendu d'Emmanuel Macron. Il livrera aujourd'hui sa vision de la stratégie de défense et de dissuasion nucléaire français. Une première depuis le début de son quinquennat. En revanche, ça n'est pas une première. Un nouveau député quitte La République En Marche et son groupe à l'Assemblée nationale. Frédéric Tufnel regrette notamment la réforme des retraites du gouvernement. De nouvelles élections sont donc à prévoir dans les prochaines semaines en Allemagne, dans la petite région de Thuringe. C'est là qu'a eu lieu une crise politique qui choque tout un pays. Le président de région y a été élu cette semaine avec les voix de la droite et de l'extrême droite. Impardonnable, disait hier la chancelière Angela Merkel. Le nouvel élu a donc démissionné et il a dissous l'Assemblée régionale. Un tabou a notamment été brisé outre-Rhin. Cela ranime le souvenir des années 30 et cela choque l'opinion allemande Ludovic Piétenu.
Chaque Allemand a en mémoire que c'est dans cette région de Thuringe, le 2 février 1930, il y a 90 ans, quasi jour pour jour, que le parti nazi d'Adolf Hitler participait pour la première fois à une coalition gouvernementale. Un parallèle historique qui revient très souvent dans la bouche des Allemands.
J'ai trouvé ça tellement insidieux, cette élection, avec le soutien de l'AfD, qu'on ne peut pas ne pas penser au début du national-socialisme.
Certains électeurs ne sont pas loin de penser qu'ils ont été trahis comme ces deux femmes.
Je pense que tout ça n'aurait jamais dû arriver. Ça laisse des traces, cela ne se fait pas. Cela n'a rien à voir avec le traditionnel jeu politique. Ce qui s'est passé n'est simplement pas correct.
Je pense que c'est mauvais qu'il y ait de telles intrigues pour accéder au pouvoir. Ça nous paraît maintenant tellement évident qu'on sait regarder qui est derrière tout cela.
Un grand parti comme la CDU d'Angela Merkel, déjà en perte de vitesse dans le pays, va peut-être y laisser encore quelques plumes après cet épisode. La grande coalition, elle aussi à Berlin, pourrait bien en pâtir, car les sociodémocrates veulent s'assurer que leur partenaire de la CDU ne renouvellera pas une telle alliance avec l'extrême droite. Ces 48 prochaines heures, plusieurs réunions au sommet sont prévues dans les états-majors et au sein de la coalition gouvernementale.
C'était Ludovic Piétenu depuis Berlin et n'hésitez pas à réécouter à ce propos également la revue de presse internationale d'hier matin sur franceculture.fr. Le président chinois Xi Jinping a assuré à son homologue américain Donald Trump que son pays était entièrement capable de juguler l'épidémie de coronavirus. Les deux hommes se sont parlé cette nuit au téléphone. Le locataire de la Maison Blanche, lui, dit faire confiance à Pékin face à cette épidémie. 630 personnes au moins sont mortes en Chine continentale ces dernières semaines. Notez par ailleurs qu'au large du Japon, plus d'une soixantaine de vacanciers sont contaminés sur un bateau de croisière qui a été mis en quarantaine. Venons-en à ce discours attendu depuis près de 3 ans. Emmanuel Macron s'est enfin décidé à tenir le traditionnel discours sur la dissuasion nucléaire. Un pouvoir absolu du président de la République, car il est le seul à donner l'ordre de déclencher la bombe. L'arme de dissuasion va perdurer en France, et ce grâce à un budget de 25 milliards d'euros d'ici à 2023, c'est acté. Mais ce matin, à l'école de guerre à Paris, Emmanuel Macron ne parlera pas seulement de dissuasion nucléaire, Nathalie Hernandez.
Devant un parterre composé de stagiaires de l'école de guerre, qui seront les futurs chefs militaires, Emmanuel Macron va sans nul doute réaffirmer l'importance de cette assurance-vie de la nation qu'est la dissuasion nucléaire. Mais comme l'indique la note de l'Élysée, le chef de l'État doit s'exprimer sur la stratégie de défense, ce qui inclut aussi bien les forces conventionnelles, la cyberdéfense ou le spatial, dans un contexte mondial incertain. Le système international de contrôle des armements a été régulièrement clairement bafoué, s'inquiétait il y a un an le secrétaire général de l'ONU. Les États-Unis et la Russie ont en effet décidé de quitter le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, un texte de 1987 qui interdisait les missiles sol-sol américains et russes d'une portée de 500 à 5500 km. Sans compter la Chine, qui ambitionne de devenir la première puissance mondiale militaire, de quoi relancer une effrayante course à l'armement et une ère d'insécurité pour la France et l'Europe.
L'intersyndicale en France, opposée au projet de réforme des retraites, a appelé hier soir à une nouvelle journée de grève et de manifestation le 20 février prochain. Trois jours plus tôt, le 17 février, c'est l'UNSA RATP en Ile-de-France qui prévoit un lundi noir dans les transports de région parisienne. Hier, 121 000 personnes ont défilé dans toute la France, selon le ministère de l'Intérieur, dont 15 000 à Paris. Une participation en hausse par rapport à celle de la précédente journée de mobilisation, le 30 janvier dernier. C'est dans un message adressé au chef de file des parlementaires La République En Marche à l'Assemblée nationale que Frédéric Tufnel a annoncé la nouvelle, son départ du groupe de La République En Marche à l'Assemblée. La députée de Charente-Maritime a également fait savoir qu'elle quittait le mouvement présidentiel, Stéphane Genest.
L'élément déclencheur qui a poussé Frédéric Tufnel à quitter le groupe La République En Marche de l'Assemblée, c'est la réforme des retraites. Elle trouve, je cite, que la volonté de réformer et la vitesse imposée nuit au travail des parlementaires. Pour son collègue Alain Perea, député La République En Marche de l'Aude, il faut que les élus de la majorité restent solidaires.
Qui pensait que l'on allait réformer notre pays en ayant une ambiance qui soit une ambiance facile? Il y a des moments difficiles, et ces moments difficiles, il faut qu'on les passe en se serrant les coudes. Voilà, moi j'ai jamais cru qu'on allait réformer les retraites dans notre pays avec des gens qui allaient nous faire des donneurs. Enfin, si quelqu'un a cru ça, il fallait pas qu'il se présente, quoi. Voilà, donc réformer notre pays, c'est difficile. On l'a toujours su, on l'a toujours affiché et on avance.
Pour plusieurs députés du groupe LREM, l'arrivée du texte de la réforme des retraites à l'Assemblée engendre une ambiance particulièrement pesante dans leur rang. Avec le départ de Frédéric Tufnel, les effectifs du groupe La République En Marche tombent à 300 membres et apparentés contre 314 en 2017. La majorité absolue dans l'hémicycle du Palais Bourbon est de 289 sièges, toujours détenue donc par La République En Marche. Et malgré les différents départs, Alain Perea ne s'inquiète pas que le mouvement présidentiel perde cette majorité.
On pourrait avoir un départ de 50 ou 100 députés, mais moi je ne l'imagine pas une seule seconde. Et donc la peur n'est pas là. Nos différences doivent faire nos richesses. On n'est pas toujours d'accord, mais on trouve des points d'équilibre et on avance. Voilà, donc moi, ce n'est pas un problème de perdre la majorité, c'est un problème de perdre des richesses qui faisaient la force de notre groupe, et qui font toujours la force de notre groupe.
Une perte de la majorité absolue qui n'est pour l'instant donc pas d'actualité pour bon nombre de parlementaires La République En Marche. Mais avec l'examen du texte de la réforme des retraites et le récent cafouillage autour du congé de deuil d'un enfant, beaucoup d'élus craignent de nouveaux départs au sein de leur rang.
Les députés de la majorité seront d'ailleurs reçus mardi prochain par le chef de l'État. Une réunion pour un besoin de câlinothérapie, selon la ministre des Territoires, Jacqueline Gourault. Des défections dans le parti de la majorité à un mois et demi des municipales. C'est aujourd'hui d'ailleurs le dernier jour pour s'inscrire sur les listes électorales, pour ceux qui ne le sont pas déjà. Un appel qui s'adresse surtout aux jeunes, les 18-25 ans, grands abstentionnistes aux dernières municipales. 55% d'entre eux n'avaient pas voté en 2014. Et c'est souvent parce qu'ils n'étaient pas inscrits sur ces listes, tout simplement pas au courant, Lucie Loconi.
Rallongement du délai pour s'inscrire au 7 février contre le 31 décembre auparavant, augmentation des campagnes d'information, rien n'y fait, le questionnement des jeunes sur cette procédure subsiste. Charlotte et Mathilde sont étudiantes à l'université Paris-Dauphine dans le 16e arrondissement de Paris.
Je pense que je vais regarder sur internet, mais j'avoue que comme ça je ne saurais pas trop dire, mais... C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'informations dessus et c'est un peu dommage, mais c'est comme si c'était que à ceux qui s'intéressaient au vote d'aller chercher sur internet comment on fait.
Les 18 ans sont inscrits automatiquement dans leur commune de résidence grâce au recensement de l'INSEE. Pour les autres, il ne faut pas oublier de réactualiser sa situation s'il y a eu déménagement, selon Céline Braconnier, directrice de Sciences Po Saint-Germain.
Il y a cette idée qu'on s'inscrit là où on a vocation à s'inscrire pour toujours. Et donc on reste inscrit chez ses parents et du coup on ne vote pas. Il faut changer ça. En gros, faire en sorte qu'on s'inscrive là où on réside à un endroit et là où on a envie donc de peser sur le quotidien de là où on vit.
L'inscription est pourtant relativement simple, une formalité à faire en mairie, sur internet ou par courrier. Un système trop complexe, selon Jean-Yves Dormagin, professeur de sciences politiques à l'Université de Montpellier.
Moi, je pense qu'il faudrait trouver des procédures où l'inscription soit automatique. Le problème, c'est qu'on est un des seuls pays, une des seules démocraties à imposer une procédure d'inscription sur les listes électorales. Ça, c'est le premier constat qu'il faut faire. Dans la plupart des grandes démocraties, l'inscription est automatique.
Selon un sondage de l'INSEE réalisé en 2017, 43% des 25-29 ans étaient mal inscrits sur les listes électorales et n'ont donc pu voter aux dernières élections municipales.
Et les prochaines municipales auront donc lieu, je vous le rappelle, les 15 et 22 mars prochains. Le temps sera nuageux aujourd'hui sur l'ouest et sur le Languedoc-Roussillon. Un grand soleil, par ailleurs, brillera sur tout le territoire, excepté sur l'ouest donc. Ce matin, il fait moins 1 degré à Strasbourg, 2 à Lille, 4 degrés à Paris, 5 à Lyon, 7 à Bordeaux et 11 degrés à Marseille. Il est 6h40, l'heure du journal des idées. Avec vous, Jacques Munier, bonjour.
Bonjour, Clara Lecoq-Réal.
Complotisme, fausses rumeurs, vérités alternatives ou relatives. La recherche de la vérité devrait nous rassembler, Jacques. Elle nous divise et nous oppose le plus souvent.
Oui, le journal La Croix a entrepris d'explorer les différents aspects de ce paradoxe dans une série d'articles sous le titre « Enquête de vérité ». Dans l'échange inaugural de cette série, Olivier Abel et Rémi Brague dialoguent sur le rapport des sociétés modernes à la vérité. Il pointe notamment le rôle des réseaux sociaux dans l'évolution récente des usages à cet égard. Créant des communautés virtuelles où s'affichent les mêmes opinions, ils ont un effet d'auto-persuasion qui relègue le souci de la vérité, alors même que nous disposons plus que jamais des outils pour la rechercher. Les individus sont comme encapsulés avec leur propre vérité, souligne Olivier Abel. Et Rémi Brague évoque la question posée par Augustin dans les Confessions. Comment se fait-il, comme le dit l'épître de Saint Jean, qu'il existe des gens qui haïssent la vérité? C'est qu'il y a deux aspects de la vérité qui suscitent des effets opposés, celle qui éclaire le monde et permet de le connaître, et celle qui accuse, qui montre à chacun ses limites et ses erreurs, voire sa faute et sa culpabilité. Autre paradoxe moderne, le complotisme qui prétend que des vérités sont cachées et qu'elles sont d'autant plus vraies qu'elles sont cachées. Pour Olivier Abel, le scepticisme généralisé conduit au complotisme, et il cite Paul Ricoeur qui estimait qu'après une période de trop grande crédulité, nous étions maintenant gagnés par la maladie de l'incrédulité. Les deux philosophes s'accordent sur l'importance de la vérification des informations par les médias, essentielle à la traque des fake news. Dans un autre article de la série de La Croix, le débat politique à l'épreuve de la vérification des faits, Alexis Buisson évoque la montée en puissance de cette pratique aux États-Unis. Selon une étude de l'université Duke, le nombre d'organisations luttant contre la désinformation est passé de 44 il y a 5 ans à 189 aujourd'hui. De raison à cela, la frustration de certains journalistes qui jugent la pratique du métier trop neutre quand on se contente de relayer des déclarations politiques, mais aussi le boom des réseaux sociaux, véritable caisse de résonance pour mensonges et erreurs en tout genre. Aujourd'hui, cinquième volet de la série de La Croix, la vérité ajustée, celle des statistiques de l'INSEE, en l'occurrence dans sa grande enquête de recensement. Comment les statisticiens parviennent-ils à capturer cette photographie de la population en interrogeant qu'un septième? Il s'agit là de données utiles. Les collectivités s'en servent pour adapter les équipements et préparer les politiques locales, par exemple. Mais l'obsession du chiffre à tout va, et dans des domaines comme la santé, l'enseignement ou la police, quand la mesure de la performance devient l'indicateur unique du fonctionnement des organisations, a de nombreux effets pervers. C'est ce que montre Jerry Muller dans un livre publié aux éditions Marcus Haller sous le titre « La tyrannie des métriques ». On sait que dans la lutte contre la drogue, par exemple, le taux d'élucidation, le pourcentage d'affaires résolues, amène les policiers à préférer arrêter les petits revendeurs, d'ailleurs aussitôt remplacés, plutôt que les gros trafiquants qui feront l'objet d'enquêtes au long cours, mobilisant de nombreux personnels. Dans le Figaro Vox, l'universitaire américain évoque les premières critiques de cette manie des objectifs chiffrés dans les années 1970. La loi de Campbell, du nom du psychosociologue américain qui l'a établie, je la cite, plus un indicateur quantitatif est utilisé comme aide à la décision en matière de politique sociale, plus cet indicateur est susceptible d'être manipulé et d'agir comme facteur de distorsion, faussant ainsi les processus sociaux qu'il est censé surveiller. Jerry Muller dénonce l'usage excessif des paramètres chiffrés lorsqu'ils proviennent d'organismes extérieurs aux organisations qu'ils contrôlent et les applique sans discernement à tout type d'activité, contrairement aux mesures créées et utilisées par les acteurs eux-mêmes. C'est la différence entre un test utilisé par un professeur pour évaluer l'apprentissage de ses élèves par rapport aux tests généraux qui déterminent si le professeur aura une augmentation de salaire. Et il met en cause le postulat selon lequel les chiffres sont objectifs, ce qui occulte le processus de production des chiffres eux-mêmes, non sans relever ce paradoxe. Les critiques contre le New Public Management mis en place au Royaume-Uni sous Margaret Thatcher sont les mêmes que celles qui ont été faites au système soviétique. Quand les planificateurs fixaient des objectifs quantifiés pour chaque usine, les industriels bâclaient la production en moins bonne qualité, mais en nombre assez élevé pour remplir les objectifs. Vous écoutez France Culture, il est 6h45. Bonjour.
Bonjour Jacques Munier, bonjour
Gacon.
À tous, bonjour à tous.
C'est l'heure des enjeux internationaux. Aujourd'hui, le Maroc réaffirme sa souveraineté sur le Sahara occidental.
Oui, on peut faire, Jacques, une transition avec l'émission d'hier sur le foot africain, puisqu'a lieu cette semaine à Laayoun, la Coupe d'Afrique des Nations, mais de foot sale. Laayoun, c'est l'une des deux principales villes du Sahara occidental, et c'est le Maroc qui a décidé d'y tenir le tournoi, comme s'il était souverain sur ce territoire, ce qu'il revendique depuis le départ des Espagnols en 1975. Le Sahara occidental, le territoire désertique de plus de 250 000 km², est toujours au cœur d'un conflit entre les autorités marocaines d'une part et les indépendantistes du Front Polisario d'autre part, soutenus par l'Algérie. Les Nations Unies en charge du règlement du conflit se disent préoccupées par une résurgence des troubles, provoquée notamment par deux récentes lois marocaines qui définissent les limites des eaux territoriales du royaume. Bonjour Khadija Mohsen Finan.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes enseignante à Paris, spécialiste du Maghreb et des questions méditerranéennes. Alors, ces deux lois que les députés marocains ont adoptées fin janvier à l'unanimité, en quoi est-ce qu'elles concernent le Sahara occidental ?
Oui, elles concernent les eaux du Sahara occidental que les Marocains ont intégrées à leur territoire à la faveur de deux lois qui ont été votées à l'unanimité, vous venez de le dire, par les députés. Alors, c'est vrai que depuis 2007, ils devaient rétablir ou mettre en place leur plateau continental, les Marocains, pour affirmer leur territoire.
Ils avaient 10 ans pour le faire.
Ils avaient 10 ans maximum pour le faire. Ils ne l'avaient pas fait. Alors, le moment est opportun, mais si vous voulez, ça vient s'ajouter à toute une série de choses. Parce que depuis une vingtaine d'années, le Front Polisario s'est saisi d'une arme qui est une arme juridique pour dénoncer l'exploitation des ressources du Sahara occidental par le Maroc.
Et c'est pas seulement le phosphore, ce sont aussi les poissons. Je savais pas qu'on comptait en poissons, en l'occurrence, mais 8 poissons sur 10 viendraient du Sahara occidental, ceux qui sont exportés vers l'Union européenne.
C'est ce qu'on dit, c'est très difficile à chiffrer, mais c'est vrai que ce sont des eaux extrêmement poissonneuses. Donc effectivement, il y a eu une demande, un recours du Front Polisario pour dénoncer l'exploitation de ces ressources, qu'elles soient agricoles, qu'elles soient halieutiques d'ailleurs. Et la Cour de justice de l'Union européenne a considéré que le Sahara occidental ne faisait pas partie du Maroc dans un premier temps, avant de se rétracter. Et parce qu'il y a eu effectivement plusieurs pays qui ont volé au secours du Maroc pour dire que non, l'accord de pêche doit être renégocié. Il a été renégocié, il a été signé à Rabat. Et effectivement, il porte maintenant sur une zone plus élargie et sur une quantité de poissons plus grande. Alors là, le Maroc est allé beaucoup plus loin puisqu'il a intégré ses eaux dans son territoire.
Et le Front Polisario donc compte contester la légalité de cette loi devant le Tribunal international du droit de la mer qui est en Allemagne et Hambourg. Il faut rappeler le statut du Sahara occidental selon le droit international, un territoire non autonome et ce qui pose des problèmes Alors, on parlait en début d'émission du futsal, c'est la diplomatie du sport aussi. Ça pose des problèmes en termes d'assurance, le fait que le Sahara occidental soit un territoire non autonome pour le droit international.
Oui, c'est-à-dire que pour le droit international, c'est un territoire non autonome. Mais je crois que ça ne parle pas à beaucoup de gens. Il faut appeler les choses par leur nom. Aujourd'hui, vous avez une puissance administrante, qu'on le veuille ou non, selon l'ONU, qui reste l'Espagne sur le Sahara occidental. Et vous avez une puissance occupante qui est le Maroc. Le problème, c'est qu'on ne s'exprime jamais en ces termes-là. Et du coup, comme il y a une extension de l'administration marocaine, parce qu'elle y tient des élections, parce qu'elle administre les personnes et les ressources, on a le sentiment que, effectivement, c'est un territoire marocain qui est plus ou moins géré par l'ONU parce qu'il y a plus ou moins un conflit. Et du coup, on introduit véritablement une confusion. Parce que depuis 1975, il y a deux actions parallèles.
Le départ des Espagnols, hein, 75.
Le départ des Espagnols, il y a un conflit armé jusqu'aux années 80 qui est en place. À partir des années 80, il n'y a plus ce conflit armé. Et dans les années 90, au début des années 90, le règlement de cette question, de ce conflit de décolonisation, est confié aux Nations Unies. Mais parallèlement, le Maroc n'a jamais eu de cesse d'occuper ce territoire et de l'administrer. Donc là, il est dans une confirmation de sa souveraineté pour montrer qu'il est légitime sur ce territoire. Et donc, il y a une action qui se fait par la diplomatie du sport, qui avait déjà commencé par le passage du rallye Dakar, où vous aviez, par exemple, aux 20h tous les soirs, Paris-Dakar, avec Smara, entre parenthèses, Maroc. Et personne ne disait pourquoi ça se passe au Sahara occidental et pas au Maroc.
Et avec de gros problèmes que ça pose en cas d'accident, d'ailleurs. Si un accident a lieu au Sahara occidental, alors
qu'il
a été affiché que c'était au Maroc.
Ça a été le cas en 95, notamment, avec un automobiliste, un coureur français qui s'appelait Laurent Guéguen et dont la voiture a sauté sur une mine et les assurances n'ont pas été capable de payer parce que, précisément, pour les assurances, Smara ne se trouve pas au Maroc.
Et il y a encore des compagnies aériennes aussi qui ont choisi quelques destinations au Sahara occidental et qui, entre parenthèses, dans leur brochure, expliquent que c'est au Maroc et le Front Polisario est encore là aussi en bataille juridique avec ces compagnies. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, le Front Polisario? Sont-ils toujours aussi nombreux et aussi actifs au début des années 2000.
En tout cas, pour les Nations Unies qui sont en charge du règlement de cette question, c'est l'un des deux belligérants. Il y a le Maroc et le Front Polisario. Alors, effectivement, c'est très disproportionné parce que vous avez un État qui est considéré comme indispensable pour les États occidentaux pour différentes raisons, parce qu'il vient en aide à l'OTAN, il joue un rôle très important, il retient les immigrés qui viennent d'Afrique subsaharienne sur son territoire et il est considéré comme un État stable dans la région. Et vous avez un groupe d'indépendantistes qui sont reconnus, donc qui représentent les Sahraouis pour les Nations Unies, mais pas toujours reconnus par d'autres instances et notamment par l'Union européenne.
Et l'État islamique est présent dans la région et est-ce qu'il y a des batailles ou au contraire des accointances entre les Sahraouis et l'État islamique?
Il y a à la fois Al-Qaïda au Maghreb islamique et l'État islamique qui sont présents. Alors, est-ce qu'il y a des accointances? C'est très difficile à dire. Le Maroc l'a beaucoup dit et s'en est servi. Mais en tout cas, ce n'est pas du tout à exclure. Il y a eu des cas avérés parce que vous avez une population aguerrie et vous avez d'un autre côté un djihadisme qui est à l'œuvre.
Alors, Khadija Mohsen Finan, puissance occupante, c'est le terme donc du droit international pour désigner le Maroc au Sahara occidental. C'est aussi le terme qu'emploie l'ONU au sujet d'Israël en Cisjordanie. On a évoqué lundi dernier avec Jean-Paul Chagnolot le sommet de la Ligue arabe qui a massivement rejeté le plan de Donald Trump en faveur d'Israël et qui entérine aussi la souveraineté d'Israël sur les colonies. Donc le Maroc a aussi voté pour la défense des territoires palestiniens face à la puissance occupante et publiquement l'a rappelé le roi Mohamed VI et le défenseur, Sa Majesté le Roi, défend les Palestiniens. Or, depuis quelques jours, des médias américains, mais aussi algériens, bon c'est de bonne guerre, relaient une information selon laquelle Mohamed VI aurait en fait signé un accord avec les États-Unis et avec Israël pour que ça se passe un petit peu différemment.
On parle d'une entente tripartite et les médias israéliens en parlent également. Selon cette entente, ça fait bien longtemps, plusieurs années, que les Marocains essayent de faire admettre leur souveraineté sur le Sahara occidental par les États-Unis. Selon eux, ça leur permettrait, ce serait une voie royale pour faire admettre ça à la communauté internationale par le biais des Nations Unies. Il y aurait effectivement une entente tripartite selon laquelle le Maroc accepterait justement ce plan Trump et en contrepartie les États-Unis et Israël reconnaîtraient ce que les Marocains appellent la marocanité du Sahara occidental.
Et pourquoi le Mohamed VI ne l'a-t-il pas fait publiquement alors encore ?
Il ne peut pas le faire publiquement, il a une opinion publique. Pour les Marocains, cette alliance paraîtrait totalement contre nature. Et son père, qui a eu l'occasion de le faire à plusieurs reprises, ne l'a pas fait. Donc ça le mettrait au banc des nations et des pays arabes. Donc c'est très difficile à assumer. Mais encore une fois, il faudrait que l'information soit confirmée.
Et c'est vrai qu'on ne comprend pas bien non plus l'intérêt qu'auraient les États-Unis à se fâcher par exemple avec l'Algérie. En tout cas, ce sont des choses qu'il faut...
L'Algérie est très affaiblie aujourd'hui et je pense que le moment est opportun pour cette offensive diplomatique de la part du Maroc. Elle a choisi un moment où l'Algérie était affaiblie et où l'équipe au pouvoir en place en Espagne est prête à des négociations.
Algérie affaiblie par le grand mouvement de contestation puis la mort de Gaït Salah récemment. Pour terminer, peut-être pourquoi le conflit au Sahara occidental est-il si peu médiatique? Peut-être parce que ça fait très longtemps, depuis 75 puis ensuite 91, les accords de paix, qu'on en parle et c'est toujours pas réglé.
Oui, au départ, c'était une volonté du roi Hassan II de ne pas médiatiser ce conflit parce qu'il penserait qu'il arriverait à le régler à sa manière très rapidement. Et puis, au fil des ans, les choses sont devenues beaucoup plus très complexe, beaucoup plus compliqué parce que vous avez deux conflits qui se superposent. Vous avez le contentieux entre l'Algérie et le Maroc et vous avez le conflit de décolonisation du Sahara occidental et puis probablement une méconnaissance de ce conflit par les médias et par les opinions publiques.
Il n'a pas été répertorié par le classement des 10 conflits oubliés que publiait récemment l'ONG CARE la semaine dernière et qui définissait comme en crise un pays où au moins 1 million de personnes sont affectées par le conflit. C'est un conflit qui ne fait plus de victimes, le Sahara occidental ?
Non, il ne fait plus de victimes.
C'est vraiment une question de souveraineté.
Absolument.
Merci beaucoup Khadija Mosen-Finan d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes enseignante à Paris 1, spécialiste du Maghreb et des questions méditerranéennes. Bonne journée.
Bonne journée.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente Prison Miroir. Que dire sur la prison que nous ne sachions déjà ? Quelle place l'artiste peut-il y occuper ? Prison Miroir ouvre le débat à la friche La Belle de Mai avec 2 expositions, des rencontres avec des professionnels de la justice, des artistes et des intellectuels, des films et des écoutes sonores qui portent un regard renouvelé sur l'univers carcéral. Prison Miroir jusqu'au 23 février à la friche La Belle de Mai à Marseille. Un partenariat France Culture.
Passion, invention, vocation, provocation, ces hommes et ces femmes nous inspirent encore aujourd'hui. Le samedi sur France Culture, toute une vie, Christine Bernard.
Par sa liberté d'expression, il a créé un style nouveau et critique dans le domaine du music hall, en s'attaquant aux tabous, aux valeurs morales et politiques de la société contemporaine. Je suis capable du meilleur et du pire, mais dans le pire, c'est moi le meilleur. C'est l'histoire d'un mec, Coluche.
Toute une vie, Coluche, bouffon de la République, ce samedi à 15h et sur franceculture.fr.
Vous écoutez France Culture, il est 6h57 et les matins commencent bientôt.
Bonjour, et voilà, bonjour Julie Gacco, bonjour à toutes et à tous.
Pour votre humeur du jour, Guillaume Chouette. Encore un objet inutile.
Et oui, on doit, Julie, à Jacques Carelman, un catalogue d'objets introuvables, autant dire impossible, la fourchette à spaghettis pour servir aussi la choucroute, par exemple. Mais il faudrait faire un catalogue des objets surnuméraires. Alors, en bonne place, moi, je mettrais la machine à faire du thé. J'ai pas dit la théière, hein, comme vous avez, par exemple, face à vous, Julie. Je veux dire un machin utilisant des capsules de thé pour faire du thé, une machine qui vient d'être sacrément concurrencée par un nouveau machin que je découvre dans le journal Le Figaro aujourd'hui, l'armoire potagère. Alors il faut que vous imaginiez, ben, je vais vous dire, c'est quelque chose à peu près d'aussi grand qu'une armoire normande, un énorme réfrigérateur américain vitré, destiné donc à faire pousser dans votre cuisine par exemple, des légumes en toute saison. Et l'on m'apprend que ce pan de mur, parce que c'est vraiment un pan de mur, hein, que vous avez, donc, va vous permettre de faire pousser une laitue, par exemple. Une solution, là je cite hein, le Figaro, pour les urbains qui ne disposent ni de balcon, ni de jardin, mais peuvent consacrer en revanche une dizaine de mètres cubes, ça c'est moi qui le rajoute, à leur armoire potagère. Moyennant donc une somme encore non déterminée, mais on imagine le pire, hein, parce que franchement, lorsqu'on est prêt à acheter ça, on accepte tous les prix. Moyennant donc une somme coquette, en utilisant force, électricité et autres externalités, comme disent les économistes, on peut donc regarder pousser sa laitue dans sa cuisine, ce qui, j'imagine, est une nécessité quand on en est à vouloir acheter une armoire potagère chez Darty, par exemple. Le président de LG, parce que c'est la marque d'électroménager qui vous propose cette usine, précise que ce machin est particulièrement adapté aux végétariens, ce qui veut dire qu'il ne prévoit pas encore d'armoire animalière qui vous permettrait de regarder pousser votre bœuf, mais ça ne saurait tarder. Et je repense au philosophe Gilbert Simondon, lequel prophétisait que le destin des objets techniques était de devenir de plus en plus polyvalent, ce qui s'est produit par exemple avec l'ordinateur, puisque quand vous l'achetez, vous ne savez pas à quoi il va vous servir, ce qui en revanche n'est pas du tout le cas de cette armoire potagère, car une armoire potagère ne sert à peu près qu'à une chose. Je dis pas à rien hein, pour ne pas désespérer Séoul d'où vient cette armoire, sauf à permettre une fois l'an à une laitue de faire son coming out, pardon, on est en France, de faire sa sortie du placard ou de l'armoire potagère.